à eux deux, ils n'ont pas 50 ans, et il y a fort à parier que d'ici moins de 5 ans, ils commenceront à être sérieusement aux manettes. Céline Rammstein a 21 ans, elle préside Sciences Po Environnement. Thomas Matagne a 24 ans, il a fondé Sciences Po Environnement. Petit échange lors des rencontres nationales du REFED, le réseau français des étudiants pour le développement durable, par une très belle journée du mois de mai. Céline, à cette époque de l'année, vous êtes censée être en train de potasser littéralement, de bûcher, et vous êtes là en débardeur, tranquillement, avec les gobelets de Sciences Po sous le bras. Qu'est-ce que vous faites là ?
Je suis venue pour les Journées Nationales de l'Environnement, organisées par le REFED, qui rassemble l'ensemble des organisations environnementales, plein d'étudiants de plein de villes différentes, tous intéressés de près ou loin par le développement durable, l'environnement, donc chacun a sa petite spécialité. Donc moi, je suis venue pour Sciences Po Environnement, donc je suis la présidente, et on est venu donc avec nos gobelets, comme vous l'avez dit, qui sont des éco-cups avec marqué Sciences Po Environnement dessus. En général, ça sera plutôt pour nos événements à nous, mais là, le REFED nous a demandé de les utiliser, donc voilà, on les a prêtés.
Donc vous avez pensé un petit peu à la place des autres, c'est bien, c'est un petit peu votre vocation de toute façon. L'environnement à Sciences Po, comment est-ce que c'est perçu ?
Tout le monde connaît un peu les problématiques, hein, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Maintenant, en général, la plupart des gens savent qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qu'il faut faire. En général, ils ne savent pas exactement quoi. Ils ont une idée vague de, par exemple, réchauffement climatique, ils voient vaguement ce que c'est, mais si on leur parle du GIEC, déjà, il y a beaucoup moins de monde. Donc, ils ont une idée, ils ont une... peut-être une conscientisation, mais il reste encore beaucoup à faire pour qu'ils comprennent l'importance que ça a, parce que tout le monde est pour l'environnement, tout le monde est pour lutter contre le réchauffement climatique, mais ça va tant que c'est des mots. Dans les gestes, après, concrètement, dans leur vie de tous les jours, on voit qu'ils sont très très loin de ce qu'il faudrait faire.
Thomas Matagne, vous êtes allé voir la direction de Sciences Po pour littéralement inoculer le développement durable à Sciences Po. Comment est-ce que vous avez fait ?
C'est un travail d'assez long terme, en fait. C'était d'abord la construction d'une coalition d'ONG, d'associations étudiantes, de syndicats et même d'un parti, pour obtenir un bilan carbone des activités de Sciences Po. Après la réalisation de ce bilan, on est retourné voir l'administration pour parler de l'impact carbone et donc de la responsabilité environnementale de Sciences Po, qu'on peut traduire en valeur monétaire. Et on a demandé à l'administration d'assumer cette responsabilité pour permettre de dégager des marges de manœuvre pour des actions de réduction de l'impact environnemental. Donc désormais, il y a une association stable qui dispose d'un budget pérenne chaque année pour mener des actions de réduction d'impact environnemental.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire, en fait, vous qui êtes amené à prendre des décisions politiques,
hein ? Oui, bah, quand on voit, par exemple, à Sciences Po, c'est quand même, globalement, on peut le dire, des gens qui seront amenés à avoir des responsabilités, sans doute des futurs dirigeants, au moins certains seront des énarques, etc. Donc ça semble extrêmement important qu'ils soient vraiment conscientisés, mais non seulement conscientisés, mais qu'ils aient également une réelle idée de ce qui se passe. Et ça, c'est pas vraiment le cas. Nous, on se bat beaucoup pour qu'il y ait un cours d'environnement à Sciences Po, pour qu'ils apprennent quels sont vraiment les enjeux, par exemple, les projections d'augmentation de température, où est-ce qu'il faut agir, est-ce que je ne sais pas, construire un nouvel aéroport à tel endroit ou tel endroit, c'est important. Pour les gens qui sont dans la filière finance et stratégie, penser à la réforme de la finance, enfin, tout ce qui fait partie du développement durable, c'est des choses qu'idéalement tout le monde partage, mais dans les cours ou dans la façon de penser des étudiants, on voit que ce n'est pas du tout intégré.
Vous avez l'ambassadeur de Kyoto Plus 20 qui sort de Sciences Po. Hein, il est,
Oui. non, heureusement, il y a quand même beaucoup de gens. Enfin, maintenant, à Sciences Po, il y a quand même des masters, des doubles cursus créés avec Paris 6 qui sont spécifiquement dédiés à ces questions d'environnement. Donc il y a des gens qui s'y connaissent très très bien, puis aussi des gens qui sont dans d'autres filières, qui ont leur propre motivation, de leur propre initiative, ils font des choses pour l'environnement. On est quand même face à des étudiants qui sont plus conscientisés peut-être que la plupart globalement.
Avouez-vous, vous y êtes allé au Calico et vous avez profité de la venue de Nicolas Stern pour, à un moment donné, enclencher le processus, disons.
Et la première phase pour obtenir le bilan carbone, effectivement, ça a été de déployer une banderole dans un amphithéâtre où Nicolas Stern faisait une conférence en présence de l'administration. Cette banderole demandait la réalisation du bilan carbone qu'on n'avait pas obtenu par d'autres moyens. Et du fait de cette banderole, effectivement, l'administration s'est engagée et depuis ce moment-là, un processus de coopération assez constructif a été mis en place.
Ça vous préoccupait énormément ? Comment ça se fait, ça ?
Ouais, c'est venu... en fait, j'ai commencé à Sciences Po juste après le bac, en double licence avec Paris 6, et puis j'ai eu petit à petit des professeurs, des amis dans les classes, dans des associations. Sciences Po Environnement n'existait pas, mais à l'époque, c'était EcoCampus. On a commencé à parler de tout ça, et donc j'ai commencé à réaliser que ça ne demandait pas juste des petits gestes, quoi. Il y avait vraiment une façon différente de penser la société, et des concepts complètement nouveaux, auxquels je n'avais jamais vraiment pensé. Et ça m'a un peu fascinée, parce que je voyais qu'avec le développement durable, on pouvait penser l'ensemble du monde, et moi, tout m'a toujours intéressée. J'ai toujours eu du mal à faire des choix, donc c'est pour ça que j'étais en cursus à la fois en sciences et en sciences politiques.
Faites des sciences et des sciences politiques, hein.
Ouais, ce double cursus avec Paris 6, on fait une licence de sciences et une licence à Sciences Po en même temps. Donc à la fin, on a une double licence et en master, c'est pareil. Là, je suis à la moitié de mon temps, je le passe à Paris 6 à faire des sciences environnementales. Donc on fait de la physique du climat, on fait de la biologie, de l'écologie, ce genre de choses.
Mais vous ne dormez jamais?
Si, si, je dors un petit peu quand même. C'est vrai que entre Sciences Po Environnement, le double cursus et puis ma vie personnelle, c'est parfois un petit peu difficile. Mais bon, avec une bonne organisation, on s'en sort. Si, j'arrive à dormir quand même. Ouais.
Comment se fait-il que vous ayez participé aux négociations internationales de... C'était à Copenhague que vous étiez?
J'étais à Copenhague et à Cancun, c'est autre chose dans mon engagement. À Copenhague, j'y étais en tant que participant dans la délégation du Mali, parce que j'ai proposé de travailler bénévolement dans le cadre d'un stage pour la délégation malienne, et donc j'étais dans l'équipe de négociateurs du Mali. Et à Cancun, là j'y étais pour un groupe d'ONG qui font un projet qui s'appelle Adopt a Negotiator, adopter un négociateur, et dont le principe est qu'une quinzaine de jeunes gens d'une quinzaine de pays différents suivent leur pays dans les négociations au quotidien pour voir leur positionnement à chaque fois que c'est possible, pour décrypter ce qui se fait, les bons positionnements, les mauvais, éventuellement les dénoncer d'une manière ou d'une autre, et surtout communiquer sur Internet pour toucher des publics jeunes principalement, pour faire vivre ces négociations internationales partout dans le monde et notamment dans nos pays respectifs.
La journée ici, pour vous, c'est une journée qui est fructueuse?
Ah oui, c'était très intéressant, c'était incroyablement bien organisé, je suis très impressionnée par le REFEB. Nous, on était présents dans 4 ateliers, il y avait 10 ateliers ce matin, sur des thèmes très spécifiques, par exemple sur l'énergie, sur développer des circuits courts dans le campus, organiser des événements, les relations asso-administration, avec un intervenant à chaque fois du REFED et des intervenants des associations, donc ça permettait d'échanger les pratiques. Puis après, il y a les temps un peu plus libres, le forum où il y a de très nombreux invités, on peut échanger entre nous, échanger des bonnes pratiques, faire aussi une thérapie de groupe par moment, mais c'est très intéressant. Ouais.
Comment se fait-il que vous soyez autant engagé dans le développement durable?
Mes études, c'est un master en sciences et politiques de environnement à Sciences Po et à Paris 6, donc c'est toujours sur les questions environnementales et donc de développement durable. C'est pas un hasard, c'est la construction d'une vie, j'ai envie de dire, modestement, mais voilà, c'est comme ça que je conçois mon existence. Oui, c'est en parallèle, les engagements, on les concilie autant que possible, ça prend beaucoup de temps. Voilà, c'est pas forcément facile, mais c'est très très enrichissant, et quand il y a des choses qui réussissent, c'est très très gratifiant. Et
Céline, quand vous aurez fini votre double cursus, qu'est-ce que vous allez faire dans la vie?
Politique publique environnementale, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Récemment, après Cancun, sur le fond vert, par exemple, je trouve ça très intéressant, et puis bon, aussi des collaborations pays par pays, développer des projets innovants dans des pays en développement, ça me semble très intéressant.
La finance verte, comment est-ce que vous verriez ça?
Je suis pas spécialiste du sujet, hein, mais de ce que j'ai pu lire ou entendre ou discuter, il me semble que ce qui est intéressant dans la finance verte, d'abord, c'est pas seulement qu'elle soit verte, c'est vraiment qu'elle soit durable et démocratique, qu'elle soit presque participative, c'est-à-dire que, d'abord qu'elle soit transparente, que les citoyens puissent récupérer le rôle qu'ils ont dans le reste de la société sur la finance. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un domaine qui soit complètement à part sur lequel ils ont pas vraiment d'impact, et surtout que ce soit transparent, qu'on puisse comprendre ce qui se passe et qu'on puisse agir dessus, le réguler s'il faut, et que ce soit une finance qui soit au service de l'ensemble des hommes et pas seulement au service d'un système qui, en plus, on le voit ces jours-ci, s'auto-détruit tout seul.
J'ai envie de partir avec mon gobelet en souvenir. Est-ce que ça n'a pas l'air de vous plaire, hein?
C'est pour ça que la caution est à 2 euros.
Elle est prohibitive.
C'est volontaire, hein. Les gobelets à la fabrication ne coûtent que 50 centimes. Mais on a discuté avec le REFED et on s'est mis d'accord pour mettre une caution à 2 euros parce que sinon les gens repartent avec leur gobelet, comme vous dites, comme un goodies, et c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est pas d'avoir un souvenir. On veut pas encourager une société consumériste, donc une société de consommation, etc. C'est pas la peine de repartir avec un gobelet. Si vous voulez des gobelets comme ça, vous pouvez les développer chez vous. Et le mieux, c'est quand même d'avoir un verre en verre chez vous.
Et la vaisselle, on l'a fait?
La vaisselle, on l'a fait. Je sais pas si vous avez vu au premier étage, là, il y a une vaisselle participative avec des bacs où chacun va laver son gobelet. Et sinon, nous, on assure la vaisselle après avec les volontaires du REFED.
Donc en amont, il fait beau, mais il faut quand même se retrousser les manches.